Hello, je suis Aurélie Gillard, ton hôte sur Tech Lipstick, le podcast des femmes qui conquièrent la tech. Tous les 15 jours, rejoins-moi pour une conversation avec des femmes inspirantes, qu'elles soient entrepreneurs, ingénieurs ou salariées dans une start-up tech. Nous échangeons sur leur parcours et sur les challenges que nous rencontrons tous dans le monde du travail d'aujourd'hui, et particulièrement en tant que femmes dans la tech. Nous en apprendrons plus aussi sur les différents secteurs de la tech, les opportunités et les challenges de cette industrie. Merci de ton soutien en t'abonnant à cette émission. Pour ce troisième épisode de la série consacrée aux femmes de l'IA, je suis très heureuse de recevoir une de ses plus belles pépites, une ingénieure très engagée sur le sujet de la représentation des femmes dans la tech et dans ce domaine en particulier. J'ai nommé la très talentueuse Anya Cassi. Anya, bienvenue sur le podcast.
Merci, merci pour ton invitation. Ravie d'être aujourd'hui à ton micro.
Eh bien, écoute, c'est un grand, grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui, alors je commencerai par dire que je suis une maman de deux enfants et je suis ingénieure et docteure en IA. J'ai commencé à travailler dans ce domaine il y a maintenant 12 ans et aujourd'hui je suis chez IBM où je suis responsable de toute l'offre IA de confiance, donc Trust What AI, comment mettre en place une IA responsable et aider, accompagner nos clients à opérationnaliser une IA de confiance dans leur entreprise.
Parce que c'est évidemment un sujet hyper intéressant et notamment pour ceux qui s'interrogent sur la mise en place de projets d'IA. On va commencer par parler de ton parcours. Donc, je vais en dire quelques mots. Tu as fait une école d'ingénieur, tu as fait un master à Télécom Paris, un master en modélisation des données et business intelligence, et enfin un doctorat en mathématiques. Donc déjà, j'ai envie de dire, quel parcours motivé pour faire des études aussi longues ? Et peut-être, petite question corollaire, est-ce que tu avais prévu, en fait, de faire des études aussi ?
Non, pas forcément. En fait, j'ai toujours aimé travailler, j'ai toujours aimé les mathématiques. Je pense que c'est challengeant de travailler sur un domaine qui est assez sous-représenté, on va dire, par les femmes. J'avais eu mon bac avec mention très bien et donc je me suis orientée vers des études où je pouvais faire des maths appliquées. Et quand j'ai fait mon projet de fin d'études, j'avais beaucoup aimé le sujet sur lequel j'avais travaillé, sur la recherche opérationnelle, IA. Et donc, je me suis dit, ça serait bien de faire un master, un an de plus de recherche pour approfondir un peu plus le sujet. Et j'avais aimé, je voulais continuer encore et donc c'était naturel de faire une thèse et de me dire que en fait je pousse vraiment le bouchon jusqu'au fond, même si j'ai pas fait normalement le dernier diplôme, on va dire, c'est HTR. Si on veut faire une carrière,
c'est quoi HTR?
En fait, si on veut faire une carrière dans la recherche. Et on va être enseignant habilité à diriger des recherches, donc c'est HDR.
D'accord.
On peut continuer encore, je ne sais plus combien d'années c'est, mais post-thèse, on peut faire un diplôme HDR. Donc moi, j'avais choisi de ne pas continuer dans la recherche. J'ai toujours fait de la R&D, même mon doctorat, c'était un doctorat CIFRE, une thèse CIFRE que j'avais faite en entreprise. Donc, je voulais toujours continuer en entreprise, dans la R&D dans un premier temps. Et voilà, donc je n'avais pas choisi de faire un HDR. C'était pour moi, la finalité de faire une thèse en IA en plus, donc de pousser un peu plus le sujet pendant 3 ans et voilà.
Tu as rencontré des challenges particuliers justement en faisant tes études et puis surtout ce doctorat.
Alors, le doctorat, bah oui, parce que tout doctorant, en fait, il n'y a aucun doctorant qui dirait que son doctorat a été facile. C'est toujours un challenge. En fait, on travaille pendant 3 ans sur le même sujet, on est assez seul. Même si on a des encadrants, mais on se sent quand même seul parce que quand on est en entreprise, en fait, on est en thèse CIFRE, on est embarqué, on fait partie d'équipes de la R&D. On va avoir des équipes qui travaillent sur des projets, qui passent d'un projet à un autre, sur des cycles un peu plus courts de 6 mois, par exemple. Et nous, on est là toujours à travailler sur le même sujet. Donc, c'est assez frustrant pour nous. Et puis, si on n'est pas, si on se contente que de cette thèse-là, en fait, on ne suit pas vraiment ce qui se passe, l'évolution de la technologie. On le voit s'il faut vraiment suivre. Et, après, moi, j'ai eu la chance de travailler sur un sujet qui est toujours d'actualité aujourd'hui, hein, sur l'optimisation, tout ce qui est exécution d'applications qui sont très consommatrices en énergie. Donc, j'avais travaillé sur comment concevoir des architectures pour optimiser la consommation en énergie. C'est un sujet assez innovant, donc je ne me suis pas vraiment ennuyée, mais le fait de voir comme ça, quand on me pose tout le temps la question, alors cette thèse, c'est pas encore fini, de voir un peu des amis qui passent d'un projet à un autre, qui changent d'entreprise, ça c'est vraiment très challengeant. Mais après, il faut s'entourer, il faut être en contact avec d'autres doctorants pour comprendre que c'est complètement normal, et puis toujours se concentrer sur l'objectif, sur avoir sa thèse, soutenir à la fin, parce qu'il y a pas mal de doctorants qui vont pas quand même au bout de leur thèse.
Qui vont pas au bout de leur thèse. Ouais. T'étais dans quelle entreprise à ce moment-là?
J'étais chez Bull, qui a été racheté par Atos ensuite, Atos Consulting. Donc ils fabriquaient, en gros, on travaillait avec le CEA pour fabriquer des data centers, tout ce qui est énergie atomique.
Donc CEA, le commissariat à l'énergie atomique.
Oui,
je vais m'y retrouver. Et data center, c'est tous les centres de traitement de données, en fait, pour le CEA, du coup.
Pour le CEA.
D'accord. Ouais. Super intéressant. Tu regrettes pas cette période-là?
Alors, je pense que j'ai eu des moments de doute. C'est complètement normal pendant la thèse. Mais après, je pense que j'ai appris énormément et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup sur toute la partie veille. Et aujourd'hui, on est obligé de faire de la veille, de suivre tout le temps ce qui se passe. Donc ça, on l'apprend pendant la thèse, et de travailler aussi sur des sujets innovants comme ça, de commencer de zéro et d'explorer toutes les possibilités, de faire de la recherche sur ce qui existe, sur comment améliorer. Ça m'aide beaucoup dans ce domaine d'intelligence artificielle.
Tu peux nous parler un peu de ton début de carrière, du coup, ça c'était déjà un début de carrière en fait, 3 ans dans la même entreprise sur un sujet particulier, mais après ça, du coup, quelle a été l'étape d'après pour...
Alors j'avais travaillé en R&D en entreprise, donc j'étais restée chez Atos quelques mois sur le même sujet, toujours pour terminer un peu ce que je faisais, et ensuite j'avais décidé d'intégrer un département innovation d'une entreprise qui commençait à faire de l'innovation. Donc, c'était une entreprise dans la construction. Il y avait des géomètres, un cabinet de géomètres, d'architectes. Et donc, ils voulaient vraiment faire de la transformation digitale de l'entreprise pour améliorer leur productivité, construire, concevoir de nouveaux produits, de nouveaux services en fait, sortir un peu de ce qu'ils faisaient au quotidien. Et moi, j'avais intégré à la création du pôle innovation le pôle, à l'entreprise, en tant que responsable de la R&D. Et donc, j'avais travaillé sur tout comment l'intelligence artificielle pouvait aider les opérateurs, les opérationnels dans leur quotidien, dans leurs tâches quotidiennes, et comment faire des partenariats avec des entreprises qui sont plutôt des consommatrices en carte, tout ce qui est, on appelle ça indoor mapping, donc dans la localisation indoor, par exemple, dans les centres commerciaux, chemin le plus court pour aller d'un point A à un point B, comment aider les personnes à mobilité réduite à bien se situer dans l'espace et voir quels itinéraires prendre. On avait beaucoup travaillé sur tout ce qui est images satellitaires aussi. Donc là, c'était en 2016-2017. On avait déjà commencé à travailler sur des modèles d'intelligence artificielle à ce moment-là.
Il y a un sujet sur lequel on n'a pas discuté, et pourtant ça fait partie de tes études, c'est le fait que tu étais probablement une des rares femmes dans les études que tu as faites. Et ça, est-ce que ça a constitué un challenge pour toi? Parce que par ailleurs, tu es très engagée justement sur le sujet des femmes dans l'IA, donc tu vas nous en parler. Mais est-ce que ça a été quelque chose qui a constitué une difficulté?
Alors, c'est une question très intéressante parce que moi, je n'avais pas connu ça parce que j'avais fait mon école d'ingénieur en Algérie. Et en fait, j'avais jamais remarqué qu'on était sous-représenté. Pendant les cours, dans l'amphithéâtre, j'ai jamais remarqué qu'il y avait moins de femmes que d'hommes. Je pense qu'on devait être, je n'ai pas le pourcentage exact, mais je pense qu'on devait être dans les 40% versus 60%. Je pense que ça ne m'a jamais marqué. Je n'ai jamais pensé à cette justement sous-représentation. En revanche, quand je suis arrivée en France pour mes études, surtout pendant ma thèse, en fait, j'étais dans une R&D où on faisait du hardware. Donc moi, je pensais à ce moment-là que, on n'était pas beaucoup de femmes. Je pensais que c'était plus lié au fait que ça soit du hardware, qu'on traite des projets autour du hardware.
Donc hardware, c'est la partie matérielle en fait. Hein, c'est
exactement.
Ça.
Tout ce qui est fabrication de nouveaux data centers, donc travailler sur les chips, programmer en Verilog, c'est vraiment, on va dire, niveau le plus bas. Je me suis dit, c'est peut-être ça. Moi, j'adorais l'électronique, donc ça tombait bien. Même si je travaillais plutôt sur la partie software, sur les algorithmes d'IA, mais je pensais à ce moment-là que c'était dû à ça. Et donc moi, pendant ma thèse, comme je me sentais seule, comme je disais au début, j'ai commencé à assister à des meet-ups autour de l'IA, du big data, de la tech en général. Et c'est là que je me suis rendue compte qu'on n'était pas nombreuses à venir au meet-up, quelle que soit l'heure du meet-up. On ne va pas dire qu'il y a une contrainte parce que c'est en soirée. Et donc, j'ai commencé à me poser la question, à essayer de comprendre pourquoi. Et donc, j'ai essayé de chercher des associations, justement, où il n'y a que des femmes, sur l'IA, par exemple. Je suis tombée sur une qui s'appelle Women in Data Science and Machine Learning. Et donc, j'ai assisté à leur premier meet-up et il y avait pas mal de femmes. Donc, j'étais très contente et donc je me suis dit, moi, j'aimerais bien m'engager pour essayer de changer les choses et de comprendre pourquoi est-ce que, ici en France, on ne voit pas tant de femmes dans ces métiers de la tech, de l'IA. Et donc, j'ai rejoint une association qui s'appelle Women in AI, dont on va parler probablement après. Mais voilà, c'est marquant ici en France. Parce que autour de moi, que ce soit dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, en fait, j'ai toujours été entourée de femmes, mais qui viennent plutôt du Maghreb ou du Liban ou de l'Iran, mais très peu de femmes qui ont fait leurs études ici en France.
Oui, alors c'est, ça interroge effectivement, et c'est une question qu'on s'est déjà posée avec mes invités, notamment celles qui ont eu pas mal l'occasion de travailler à l'étranger, et effectivement, qui m'avaient mentionné ça, le fait que peut-être l'attitude vis-à-vis des carrières scientifiques et puis même des mathématiques était différente et qu'en France, il semblerait que les jeunes filles intègrent le fait que en fait, les maths, ce n'est pas pour elles, en tout cas en majorité. Et ça s'est prouvé d'ailleurs dans la récente réforme du bac où en fait, les jeunes filles ne prennent pas l'option mathématiques. Alors que sur le papier, il n'y a aucune raison. Donc, et là, il y a eu un témoignage que j'ai trouvé hyper intéressant, une discussion au Sénat, d'ailleurs, que tu m'as recommandé. Et on a échangé sur un des témoignages du sénateur Bruno Piednoir qui disait j'étais prof en seconde, et il y a une jeune fille qui, dans un cours, à qui j'essayais d'expliquer la vision dans l'espace, a dit non, mais de toute façon, tout le monde sait que les femmes ne sont pas bonnes pour la vision dans l'espace. Et donc, lui, ça l'a choqué en se disant mais ça veut dire que ces stéréotypes-là sont déjà intégrés, et probablement d'ailleurs plus autour de 12-13 ans que même en seconde, en fait. Oui. Donc, c'est intéressant, effectivement, de comparer à d'autres pays où, au contraire, il n'y a pas du tout cette vision-là. Et. La preuve.
En Algérie, personne n'est venu me dire tu dois forcément faire les maths parce que c'est bien, parce que c'est là que tu vas réussir. Ça s'est fait naturellement. Je pense que je me suis jamais posé la question parce que déjà, moi, je me rappelle que c'était ma mère qui m'aidait à faire mes devoirs en maths, même si elle était prof. Elle a un background plutôt littéraire. Donc, j'ai jamais eu cette idée que c'est papa qui me qui m'enseigne les maths et maman qui m'enseigne plutôt les langues. Mais moi, j'ai toujours été entourée de filles brillantes, bosseuses. Enfin, les filles étaient plus bosseuses que les garçons. Et donc, pour moi, c'était complètement naturel d'aller vers des voies un peu plus compliquées, on va dire, où on travaille un peu plus. Ici, je pense que c'est plus les rôles modèles qui manquent. Et peut-être les parents qui n'encouragent pas aussi leurs enfants à aller vers ces métiers-là. Mais on sait que même dans les écoles, on peut avoir des filles qui sont moquées quand elles sont intéressées par la robotique, par exemple, ou par l'électronique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et comme tu le dis, oui, ça commence dès le primaire même. Il y a des stages de robotique en ce moment qui sont proposés pour les filles dans certains départements. Et donc, il faut y aller, quoi. Il faut encourager ses enfants à aller voir. Et après, s'ils n'aiment pas, c'est OK. Il faut vraiment qu'ils voient ce que c'est. Et puis qu'on essaie d'expliquer simplement ce qu'on peut faire avec les maths. Qu'est-ce que c'est les maths? Et où est-ce qu'on peut trouver les maths? Quels sont les différents métiers aussi qui impliquent les maths? Et je pense que ça irait mieux.
Ouais.
On pourrait se projeter et se voir dans ces métiers-là.
Justement, toujours sur ce sujet, comment toi tu vas faire vis-à-vis des filles?
Alors, j'ai une fille qui va avoir un an là dans quelques jours. Et en fait, ce que j'essaie de. C'est marrant, en fait, quand je lui donne le biberon, quand je prépare le biberon, je compte le nombre de cuillères à haute voix. Comme ça, elle entend déjà les chiffres. Parce que j'ai un garçon qui va avoir 5 ans qui adore ça. Ça s'est fait naturellement. Il est tout le temps dans la négociation sur le nombre de cuillères à manger. Il est tout le temps en train de compter. Ça s'est fait naturellement. Et je me suis dit, bon, j'ai rien fait. Mais peut-être que pour les filles, il faut vraiment faire quelque chose que ça ne se fait pas naturellement. Enfin, je ne sais pas, je verrai. Mais en tout cas, je commence là. Et puis, je pense qu'elle... Elle a de la chance d'avoir des rôles modèles parce que je suis dans l'informatique. Ma petite sœur aussi est dans l'informatique. Et donc, je pense que ça, déjà, à ce niveau-là, il y a leur représentativité dans la famille. Après, on verra comment. Mmh. Mais il faut pas... l'idée, c'est pas de forcer les choses aussi. C'est vraiment d'expliquer... quelles sont les différentes possibilités et puis de les laisser choisir. Et aujourd'hui, on a de la chance à travers les podcasts, comme le tien, d'écouter des femmes inspirantes, de voir les différentes voies possibles et de voir si on s'y projette ou pas.
Alors justement, je pense que c'est une bonne transition pour parler de Women in AI parce que tu vas nous expliquer un petit peu les différentes actions, ce que vous faites et peut-être en commençant par toi, quel est ton rôle ou l'inverse, comme tu veux.
Alors, c'est une association qui a été créée en 2016, il me semble, fin 2016, par trois filles ici en France. Donc, il y a une iranienne, une libanaise et une française. Et pareil que moi, en fait, elles ont commencé à assister à des meet-up et elles ont constaté qu'il n'y avait pas assez de femmes. Et donc, elles ont décidé de créer cette association pour faire différentes initiatives, en fait, pour améliorer ou réduire ce gender gap dans ce domaine-là. Et donc, moi, je les ai rejoints en 2017 suite à un meet-up et je voulais m'engager, aller plus loin dans mon engagement sur ce sujet. Et donc, moi, j'ai pris comme rôle, quand j'ai commencé, j'ai l'idée le Way on Stage. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant des femmes en tant que speaker dans les conférences, dans les événements. Donc, on constate qu'il y a très peu de femmes qui prennent la parole pour parler de leur projet, de leur carrière, de différents sujets sur lesquels elles travaillent. Et donc, moi, j'avais travaillé sur ça. Donc, je mettais en relation des conférenciers avec des femmes speakers de notre communauté ou des femmes de entourage. Et ensuite, j'ai été responsable de tous les événements. On a commencé à faire, on a plusieurs initiatives. Donc moi, je lead toute la partie événements. C'est plus des meet-up, on va dire, on appelle ça des white talks, qui ont deux objectifs. Le premier, c'est vraiment de mettre en avant des femmes donc, qui viennent parler de leur carrière. En général, c'est des career talks, donc des talks sur leur carrière. On parle de mentorship, par exemple, pour les femmes, pour qu'elles avancent dans leur carrière ou pour qu'elles se réorientent vers l'intelligence artificielle. Et le deuxième objectif, c'est vraiment de faire parler des rôles modèles pour inspirer d'autres femmes, d'autres jeunes filles ou des femmes qui sont déjà dans le domaine. On a une initiative sur l'éducation. Donc, on fait des partenariats avec des organismes pour former des femmes à l'intelligence artificielle, des femmes qui sont déjà dans le domaine et donc, ça va être plutôt des formations techniques et puis des femmes qui veulent se réorienter vers ce domaine-là. Ça peut être du product management, comme ça peut être de l'analyse de données. Il y a plusieurs métiers possibles. Donc, on fait un partenariat, par exemple, avec Data Scientist ou Le Wagon. Et une troisième initiative sur le mentorat. Je pense qu'on a trois ou quatre cohortes par an qui sont sponsorisées par des entreprises. La dernière a été sponsorisée par Schneider pour matcher des mentors et des mentees. Dans les mentors, il peut y avoir des hommes et des femmes. Dans les mentees, on met plutôt...
C'est que des femmes.
Ouais. Plutôt des femmes pour qu'elles soient accompagnées sur différents sujets, hein, sur les soft skills et les hard skills, c'est-à-dire dans les carrières.
Alors justement, c'est hyper intéressant parce que les métiers autour de l'IA sont assez méconnus, je pense. Il y a beaucoup de d'imaginaire et en même temps, il faut être concret. Donc concrètement, quand on s'intéresse, quand on se dit, bah tiens, l'intelligence artificielle, c'est un domaine d'avenir et c'est un domaine dans lequel bah, il va y avoir les prochaines décennies beaucoup, beaucoup de possibilités d'emploi. C'est quoi les métiers dans les grandes catégories dont tu peux nous parler ?
Alors, il y en a pas mal, je ne pourrais pas tout citer, mais on va avoir aujourd'hui, grâce au nouveau, on va dire, tout le monde parle de l'IA en ce moment, donc tout le monde déploie ou sort des applications IA. On parle de no-code aussi, des applications qui sont assez faciles. Donc, il y a toute une partie sur l'utilisation, comment utiliser efficacement ces applications à travers du prompting. Donc, comment discuter avec l'application pour qu'elle réponde, elle nous donne des recommandations les plus pertinentes possibles. Donc, une ligne de code pour... travailler sur le sujet. Donc, on va avoir des entreprises qui se mettent à l'IA, qui déploient des solutions. Et donc, on va avoir besoin de personnes qui maîtrisent comment parler avec l'IA. Il y a tout un domaine sur la coopération aux machines. Donc, il y a des neuroscientists qui travaillent sur le sujet. Il y a des personnes plutôt qui font des études sur la psychologie. Il y a vraiment énormément de profils possibles. Et on va avoir des métiers sur tout ce qui est product management. Donc, comment concevoir un produit qui sera vraiment utilisé. De A à Z, donc comment recueillir les besoins, voir comment mettre en place une interface qui est facile d'utilisation. On va avoir toute une partie sur la validation des recommandations. Donc, avant de mettre en production un système, on doit s'assurer qu'il fonctionne parfaitement. Et donc, pour valider ça, c'est là qu'on a besoin de diversité des équipes dans la validation, parce qu'on a des biais cognitifs. On parle beaucoup de biais dans les datasets, mais il y a aussi des biais cognitifs dans la validation. Donc, validation, dire si on est OK ou pas avec la recommandation du système. Et là, on a besoin de différentes perspectives.
Est-ce que tu peux très simplement expliquer à nos auditrices et auditeurs comment ça se passe quand tu entraînes un système d'IA? Je sais qu'il y a trois étapes. Est-ce que tu peux les expliquer? Parce que je pense que c'est important après pour notre discussion sur justement ton rôle.
Alors, on va avoir dans les projets d'IA, on va avoir normalement, on commence par une stratégie IA. Donc, on va lancer un cas d'usage qui est pertinent, qui va créer de la valeur à l'entreprise. Et donc, on commence par une idée et cette idée est à valider pour voir si elle est pertinente ou pas pour le développement. Ensuite, on va passer à la phase de développement. qui est plutôt, en général, on passe par des POC pour valider...
Proof of concept.
Oui, de la faisabilité de la solution. Donc, on veut traiter un problème donné. On veut savoir si, à travers des algorithmes d'intelligence artificielle, on peut arriver à résoudre ce problème-là. Donc, on va faire un test, on va dire, sur un développement, sur un cycle court. Une fois qu'on a validé le fonctionnement, on va essayer de passer à l'échelle. Et dans ce passage à l'échelle, on va avoir, donc on va élargir, on va dire, notre spectre pour répondre à tout le problème. Et une fois qu'on a répondu à ce problème-là, on va avoir une phase de testing que pour valider. Donc on va avoir un entraînement sur un jeu de données. Ensuite, on va venir avec un nouveau jeu de données pour valider que le problème, les algorithmes ne dérivent pas, qu'on a toujours la même performance. Et une fois qu'on a validé ça, on va le mettre en test pendant un certain temps pour, pareil, le monitorer pour voir s'il fonctionne correctement. Et donc, dans la validation, nous, on préconise, on va en parler après, d'avoir toujours un humain dans la loupe pour la validation. On ne peut pas laisser un système travailler en autonomie, surtout quand l'impact est important, quand on essaie de résoudre un problème qui va toucher les droits, par exemple, des utilisateurs. Et donc, il faut avoir un humain dans la loupe. Donc, il y a toute une partie validation. Une fois qu'on a validé ça, ça peut passer en production. Et il faut qu'on le monitore en continu pour éviter qu'il y ait qui fonctionne incorrectement.
Donc justement, ton rôle chez IBM, c'est de, je crois, faire en sorte que on construise, enfin que IBM et ses partenaires construisent une IA, des IA éthiques. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire et en quoi consiste ton métier au quotidien, en fait.
Oui. Alors, il y a deux volets. Il y a un volet, une casquette. J'ai une casquette en interne, la partie, on va dire, driver la culture d'IA de confiance dans l'entreprise. Donc, en interne, je discute avec nos data scientists, nos managers qui travaillent sur des projets IA pour les sensibiliser aux risques. Donc, on les sensibilise, qu'ils identifient les opportunités, mais aussi les risques, parce que c'est pas si évident que ça. Tout le monde connaît les biais, comme je disais, dans les datasets, mais pas forcément tout le long du cycle de vie d'un modèle. Donc, on a des formations. L'idée, c'est de driver cette culture-là. Donc, on va parler aux data scientists, on va les sensibiliser aux risques, mais aussi aux stratégies de mitigation des risques. Donc, comment réduire ces risques-là. Et puis, on a des points d'actualité, par exemple à la sortie de ChatGPT, tout le monde en parlait, c'est super, mais il y a des risques quand même. Donc on avait toute une task force dessus, sur comment s'assurer qu'on utilise d'une manière responsable ce type d'outils. Ensuite, j'ai une autre casquette où moi je suis côté consulting, où on travaille avec nos partenaires, nos clients, pour s'assurer de la mise en place d'une IA responsable. Donc, que ça soit dans le développement, dans l'utilisation, on voit que de plus en plus d'applications seront intégrées, des applications qu'on utilise déjà, type Adobe par exemple, où on intègre des modules d'IA pour améliorer la productivité. Et donc, ce sont des personnes qui sont pas forcément, qui n'ont pas un background technique et qui doivent comprendre qu'il y a des risques. Si on utilise un module qui va traduire un document d'une langue à une autre langue, et quand on met en intègre des données sensibles de l'entreprise, des données financières par exemple, il faut être conscient déjà que c'est un risque et qu'on ne peut pas envoyer n'importe quelle donnée sur le cloud et sur de l'open source ou des outils type ChatGPT. Donc on travaille sur toute la partie sensibilisation, qui est très importante.
Vous avez donc quel type de risque on a? On a un risque de fuite de données, en fait, notamment des données sensibles, ça c'en est un. On a un risque de biais, tu l'as mentionné. Donc finalement, le résultat, c'est pas conforme, en fait, c'est pas éthique, c'est pas représentatif, etc. Est-ce que vous intégrez un risque lié, et ça c'est ça en relation aussi avec ce que tu as fait au début, sur l'impact écologique, en fait, des IA, parce que ça demande une puissance de calcul importante, donc c'est en train d'augmenter, en fait, l'empreinte carbone de tous les data centers. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que tu veux rajouter?
Il y a les risques d'informations, si on donne des informations incorrectes à des personnes. On voit que ces outils-là, aujourd'hui, sont utilisés par tout le monde. Donc, les personnes, les utilisateurs ne sont pas, ils croient les résultats ou les recommandations de l'IA comme si c'était une source sûre, alors que en fait, ces outils-là prennent leurs données, des différentes données sur Internet, donc toutes les données disponibles sur Internet, ils ont été entraînés là-dessus. Donc si on a quelqu'un qui a écrit un blog sur quelque chose qui est complètement faux ou pour influencer telle ou telle population, bah, en fait, l'outil est capable de donner une recommandation avec une information qui est erronée et l'utilisateur peut prendre ça comme une source sûre. Donc là, par exemple, sur des outils-là, nous, on préconise d'avoir, en plus de la recommandation, que le système fournisse aussi la source pour qu'on puisse valider. C'est ce qu'on recommande aux utilisateurs. Donc avant de prendre l'information, et c'est ce que je recommande aussi à mes étudiants à Sciences Po, qui utilisent énormément ChatGPT, en leur disant, OK, vous êtes autorisé à utiliser ChatGPT pour faire vos évaluations, vos exercices, mais vous me mettez votre source et vous regardez, en fait, par rapport à la source, vous lisez un peu plus pour comprendre pourquoi est-ce que cet outil-là a donné ce résultat-là.
C'est hyper intéressant parce que dans une posture comme la tienne de, justement d'enseignante, de toute façon, tu le sais, tes étudiants vont s'en servir. Donc, autant le prendre en compte et autant leur donner les clés, l'esprit critique qu'il faut. Et c'est pareil en entreprise. C'est pas la peine de se cacher le fait que la plupart des collaborateurs, et surtout les plus jeunes, puisqu'on le voit hein, dans l'utilisation de ChatGPT, c'est 62% des utilisateurs moins de 35 ans. Donc, de toute façon, ils vont l'utiliser. Donc, il faut encadrer ça et il faut, comme ce que tu fais, les sensibiliser au risque, les sensibiliser à la variabilité des résultats, au fait que bah, l'IA, elle n'est pas intelligente de toute façon. Et en plus, elle a une dose de variabilité. Donc, il faut absolument qu'ils aient conscience de ça et qu'en fait, ils apprennent à s'en servir avec le bon esprit, comme toutes les technologies, parce que moi, ça m'évoque quand même ce que tu dis sur la vérité, c'est les réseaux sociaux, c'est pareil. Il y a plein de personnes qui considèrent les réseaux sociaux comme leur première source d'information sans aller vérifier les sources. Que finalement, ça rajoute encore une couche de complexité et ça rajoute encore la nécessité d'avoir un esprit vraiment critique par rapport à ce qu'on peut voir sur les réseaux. Et...
Oui, il y a toute une partie de responsabilité de ces entreprises qui développent et déploient ces solutions, mais il y a une partie aussi de tout utilisateur de vraiment utiliser d'une manière responsable ces outils-là.
J'ai beaucoup aimé, alors tu as fait un post et j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, donc je vais le lire, parce que ne serait-ce que pour toi, te le remémorer. Pour que l'IA réalise son potentiel et un impact positif, son écosystème doit être le reflet de notre société dans son ensemble, développé par des voies diverses et pour tout le monde. Pour ce faire, il est essentiel de veiller à ce que les femmes occupent une place dans cette révolution de l'IA. Donc on retrouve évidemment à la fois ton engagement chez IBM et ton engagement dans Women in AI. Mais concrètement, on fait comment? Parce que, tu vois, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a quand même 13 millions de Français qui n'ont pas les compétences numériques, ne serait-ce que basiques. Donc, en fait, j'ai l'impression que le décalage la fracture, en fait, va encore se creuser, en tout cas pour ces personnes-là. On fait comment, concrètement, pour faire en sorte que, justement, l'IA soit accessible à tout le monde? On passe par des partenariats, on passe par du développement de produits.
C'est la première solution pour ça, c'est vraiment la formation. Donc il y a énormément d'organismes, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur le sujet. Il y a Impact IA, moi je fais partie aussi du cercle Interrel avec IBM, donc c'est un réseau de 17 entreprises. dont l'objectif principal est vraiment d'avoir plus de femmes, le plus de femmes dans, dans la tech et dans les métiers, dans la, les sciences et la tech. Donc on fait pas mal de partenariats avec des associations, il y a Arborus. Impactia, par exemple, a mis en place un module qui est complètement gratuit sur leur site pour sensibiliser aux biais de genre, pour aussi expliquer, vulgariser un peu les concepts de l'intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup de contenu pour les entreprises qui ne sont pas forcément dans la tech. C'est assez facile d'aller chercher des formations comme ça sur étagère ou sinon faire appel à des associations comme notre association qui sont prêtes à donner de leur temps gratuitement pour vraiment venir former les collaborateurs et, à l'IA, qu'est-ce que c'est l'IA, quelles sont les différentes applications, quels sont les risques, comment utiliser d'une manière responsable l'IA. Et ça fait partie de la stratégie aussi digitale de la France de vraiment de former le plus de personnes possible à l'IA. Donc ça passe vraiment par la formation.
Avec notamment, c'est le plan France 2030, c'est ça?
Oui.
Entre autres.
Oui, c'est ça. Donc il y a pas mal de formations accessibles à tout le monde, des podcasts, il y a énormément de choses. Il faut juste s'y mettre.
Ouais. Et même, tu vois, je me dis, alors moi, mes enfants sont grands, mais je me dis, j'aurais des enfants plutôt adolescents. J'essaierais de comprendre parce que, comme c'est évident, on en parlait, qu'ils vont l'utiliser, moi, en tant que maman ou papa, j'aurais envie de savoir justement ce qu'il y a derrière parce que finalement, ils vont s'en servir. Et comment ils vont-ils s'en servir? Et tu vois, quels sont. On parlait de risques, quels sont les risques associés. Donc, finalement, ça fait partie aussi un peu du package, tu sais, comme aller de regarder ce que c'est qu'Instagram. À l'époque, c'était Facebook, mais maintenant, Instagram, TikTok, etc., pour comprendre à quoi sont confrontés nos jeunes et finalement, comment on va les aider à mieux se servir de ces outils qui sont...
Mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est que chacune, justement, de ces applications puisse intégrer un onglet pour expliquer un peu leur fonctionnement. Donc, être transparent sur le fonctionnement. Donc, dire comment ça fonctionne, enfin, quelles données elles utilisent et quels sont les risques.
Ça, ça ne va pas être une partie de justement ce qui a été décidé dans l'IA Act. Ce n'est pas des recommandations par rapport...
Oui, c'est des recommandations en fait, mais ça dépend des applications, du niveau de risque des applications. Quand on a des applications comme par exemple l'attribution de crédits qui vont impacter, dont l'impact est vraiment important sur les individus, là ils seront obligés de. C'est une obligation. Dès que l'IA Act va passer. Je pense en février, en mai, ça sera une obligation. Donc les entreprises, elles auront quelques mois, voire en fonction du risque, quelques années pour mettre en place ces exigences-là, être transparent sur quelles données ont été utilisées, quels sont les algorithmes, quel est le flow en fait, des données dans l'application. Mais on ne sait pas encore comment ça va. C'est pas forcément une obligation dans l'application du end-user. Ça peut être par exemple un inventaire dont le CNIL va se charger pour faire des audits et voir si c'est vraiment conforme. On ne sait pas encore comment ça va évoluer.
Mais en tout cas, ça n'empêche pas que ça serait une bonne pratique de effectivement au moins avoir une note d'information pour l'utilisateur sur et ça renforcerait la confiance. Avant qu'on parte sur des questions un peu plus personnelles, parce que je vois l'heure qui tourne, j'avais une question pour toi un petit peu de prospective. Tout le monde parle du moment de l'IA générale, du moment où en fait les IA seront capables de faire... alors, elles sont déjà capables de faire certaines choses mieux que des humains, mais de manière très spécialisée. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on doit avoir peur de l'IA? Est-ce qu'on doit se projeter dans un scénario à la Terminator? Voilà.
Alors, moi qui suis dans le domaine depuis 12 ans maintenant, non, je dirais pas que... C'est pas une technologie dangereuse, c'est un peu comme c'est une nouveauté, même si moi j'en fais depuis plusieurs années, mais grâce à ChatGPT, tout le monde en parle et tout le monde parle de remplacer les métiers, etc. En fait, on va c'est une révolution, il faut juste s'adapter. C'est comme l'arrivée des robots dans les usines, par exemple, où du travail à la chaîne a changé, il a été modifié. Les personnes qui faisaient des tâches répétitives font autre chose. Et c'est l'occasion de monter en compétence, justement, pour faire des tâches qui nécessitent un peu plus d'expertise. Et puis, on va se concentrer sur des choses plus innovantes. Pour moi, c'est une révolution. Moi, je sais que, par exemple, je déteste faire des PPT, des présentations, et je sais qu'aujourd'hui, l'IA m'aide à mieux structurer mes slides, donc c'est très bien. Mais je ne me dis pas que, en tant que manager, mon métier va disparaître, ou même les développeurs aujourd'hui, parce qu'il y a des modèles d'IA générative qui arrivent à générer du code qui fonctionne parfaitement juste à travers une requête avec le langage naturel, humain. Mais il y aura toujours, de toute façon, des gens pour développer ces applications justement qui font ça.
Absolument. Je voulais passer sur ces petites questions personnelles. Avant de démarrer vraiment là-dessus, quel conseil tu donnes à celles qui se disent, après t'avoir écouté et écouté d'autres épisodes que je fais sur les femmes de l'IA, qui se disent, moi, j'ai envie vraiment de m'intéresser à ce domaine. Je ne suis pas forcément ingénieur, je n'ai pas forcément le background. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à toutes ces femmes?
Alors, pas un seul, plusieurs. Mais déjà, je commencerai par dire rejoignez l'association Women in AI et ça va vous ouvrir pas mal de portes et vous pourrez voir aussi quelles sont toutes les possibilités pour s'orienter vers ce métier-là. D'écouter des femmes qui ont des carrières dans l'IA, voir quels sont les métiers possibles, quelles sont les formations, quelles sont les personnes à suivre aussi pour justement se mettre à l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut trouver un mentor et ça peut se faire aussi à travers l'association Women in AI, mais c'est important de discuter avec aller dans des meet-up, discuter avec des personnes qui sont déjà là-dedans et voir si on s'y voit ou pas.
Alors, on parlait de conseils. Si toi, tu avais la possibilité de revenir en arrière et de te donner un conseil, ça serait à quel moment et pour te dire quoi?
Alors, moi, ça serait en école d'ingénieur. Et j'ai toujours eu d'excellentes notes, en maths notamment. Et quand je suis arrivée en école d'ingénieur, je me suis rendu compte que ça ne sera pas toujours le cas pendant les années à venir. En fait, il faut dire adieu à toutes ces notes de 20 sur 20. Et j'ai continué à avoir d'excellentes notes en maths, en électronique, en analyse de données, tout ce qui est en rapport avec l'IA aussi. Mais c'est vrai que sur certains modules, j'avais juste des notes catastrophiques. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas parce que j'ai toujours été une bonne élève. J'ai toujours eu... Je lui disais, est-ce que finalement c'est pour moi, c'est pas pour moi? Mais j'ai continué, j'ai pas perdu espoir parce que je savais que de toute façon j'aimais les maths et les maths appliquées, donc j'étais au bon endroit. Mais à ce moment-là, je me rendais pas compte que c'est ok si on n'est pas excellent partout. Et donc on le voit, et c'est là que c'est important justement de comprendre les différents métiers et de se dire que en fait, quand on a un diplôme en ingénieur en informatique. Informatique, c'est plein de métiers. C'est pas qu'un seul métier. On va avoir un administrateur réseau qui fait pas la même chose qu'un développeur d'algorithme IA. Donc, c'est OK si on n'a pas de très bonnes notes partout. Et je pense que ça, c'est important à dire à toutes les étudiantes qui nous écoutent aujourd'hui.
Le syndrome de la bonne élève, oui. Et effectivement, de ne pas se laisser déstabiliser par les difficultés, alors que
oui,
et tout est relatif en plus. Parce que tu te compares, ça dépend à qui tu te compares et dans
exactement.
Quelle situation.
Exactement, et ça ne veut rien dire, en fait, les notes ne veulent rien dire. Après, il y a un sujet sur le système éducatif aussi. Donc
on pourrait en parler longtemps. Ouais. Je sais que c'est difficile toujours cette question, parce que tu es entourée de femmes, tu l'as dit, brillantes et inspirantes. Est-ce qu'il y en a une qui est ton modèle, en fait, la figure que tu veux mentionner ici?
Moi, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué d'en choisir. Non, j'en ai plein en fait. Chacune sur un sujet bien différent. Pour moi, c'est pas juste les femmes qui m'inspirent. C'est pas juste les femmes qui sont déjà qui sont en intelligence, qui travaillent dans l'intelligence artificielle. C'est vraiment toutes les femmes en fait qui persévèrent ou pour atteindre un objectif. Qu'elles soient femmes au foyer ou je le vois moi mes exemples. Ben, je peux citer des exemples. Ma belle-mère ou ma mère, ce sont mes exemples parce qu'elles ont persévéré chacune sur un point bien précis. Et puis oui, je suis entourée par pas mal de femmes brillantes. J'ai une collègue que j'adore, qui est vraiment très compétente, qui s'appelle Sabine Gayed, qui est senior manager chez IBM, que j'admire pour ses compétences en IA, en tech en général. C'est plein de femmes qui m'inspirent au quotidien.
Très bien. Donc, je suis ravie que justement tu puisses donner des perspectives comme ça à toutes celles qui... voudraient s'engager et s'inspirer finalement, s'appuyer sur leur rôle modèle. Est-ce que tu as une émission que tu veux recommander, quel que soit le format ?
Alors, plutôt un podcast, j'écoute pas mal de podcasts, je citerai un qui est connu, c'est Legend Ladies, pareil dans le même objectif en fait de mettre en avant des femmes et de parler de leurs challenges, leurs difficultés dans leur carrière ou dans leur quotidien quoi. Et c'est un podcast qui met en avant des femmes au foyer, des entrepreneuses, hein, de différents backgrounds et donc c'est assez inspirant. D'écouter différentes histoires de femmes qui ont grandi dans des environnements complètement différents et qui ont des carrières sublimes.
Il y a un livre que tu veux nous recommander ?
Oui, c'est Carnet de thèse, pour revenir au doctorat de Tiphaine Rivière. Qui est vraiment que je recommande à tous les gens qui font une thèse ou qui connaissent quelqu'un qui fait une thèse. C'est un excellent cadeau. Ça raconte, c'est un roman qui raconte le quotidien des doctorants, quel que soit le sujet de thèse. Donc, ça raconte leur quotidien avec humour, les différents personnages qui entourent un doctorant, de vraiment du démarrage, on va dire, de la définition du sujet de thèse jusqu'à la soutenance.
Est-ce qu'il y a une compétence, petite cerise sur les gâteaux, est-ce qu'il y a une compétence que toi, tu es en train d'acquérir ?
Une que j'aimerais acquérir, mais que j'essaye, mais que je n'y arrive pas encore, c'est vraiment de faire de belles présentations. Je pense qu'il faut que ça soit mon objectif de cette année. Mais comme j'ai dit, comme l'IA peut m'aider là-dessus, donc c'est parfait.
Super. Et une recommandation justement sur une compétence à acquérir absolument ?
Aujourd'hui, il faut vraiment se mettre à lire.
Ok. Bah écoute, ça sera le mot de la fin. Anya, merci mille fois. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter juste ?
Bah merci à toi. Merci pour ce podcast. Merci de mettre en avant des femmes brillantes. Et j'encourage tout le monde à t'écouter, à écouter chacun de tes épisodes.
Bah merci à toi. À très bientôt.
Merci.
Tu viens d'entendre Anya Cassie, Senior Innovation Manager chez IBM France, où elle œuvre pour donc une IA éthique et responsable. Si, comme moi, tu souhaites t'entourer de femmes qui sont dans ce domaine, te faire mentorer, épauler, apprendre, rejoins Women in AI. C'est ouvert à tout le monde. Il suffit de remplir un questionnaire. Et puis, eh bien, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau portrait d'une femme de l'IA qui a de l'impact. D'ici là, porte-toi bien et n'arrête jamais d'explorer.